ensemble sur Calad.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calad. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'écoute de Calad. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 16 mai 2023. Il fait gris dans le Beaujolais. On espère quelques éclaircies cet après-midi, mais c'est mal parti. Et les températures se situent autour de 14-15 degrés. Au programme de notre émission, on va retrouver notre conseillère conjugale et familiale Céline Benck. On a rendez-vous également avec notre libraire Bertrand Lamure. Mais d'abord, on passe un moment en compagnie de notre invité du jour. Avec une voix que vous connaissez certainement sur notre antenne, puisqu'il s'agit de l'animateur de l'émission Chronique d'un autostoppeur, diffusée le second lundi de chaque mois à 18h30, si je dis pas de bêtises, c'est Jérémy Fischer. Il est avec nous aujourd'hui pour un anniversaire. On est un petit peu en retard, on a 3 jours de retard. C'est celui de son voyage en Pologne, mais plus précisément de son retour après un voyage l'année dernière, un voyage humanitaire spontané pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. On va parler aujourd'hui de ce périple, du recul qu'il peut en avoir sur cette aventure qu'il a passée là-bas en Pologne. Avant toute chose, on commence notre émission comme d'habitude avec de la musique, aujourd'hui de la musique ukrainienne, on va être dans le thème. On écoute le groupe Daka Braka avec un morceau qui s'appelle Lado. Nous sommes ensemble sur Calad, il est 12h14, merci d'être avec nous.
Ладно,
Allez, si vous n'avez pas compris, c'est normal, moi non plus. C'était Daka Braka. Ce qu'on a compris, c'est qu'ils sont pleins d'énergie et qu'ils font de la bonne musique. C'est un groupe ukrainien et le morceau qu'on vient d'écouter, ça s'appelait Lado.
Ensemble sur Calade.
Et si on écoute de la musique ukrainienne aujourd'hui, parce que ça va être un petit peu le sujet de notre émission, avec nous en studio, on retrouve Jérémy Fischer. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir.
Avec plaisir.
On te connaît pour la chronique d'un autostoppeur qu'on écoute depuis 15 mois.
C'est ça, oui.
Sur l'antenne de Radio Calade. Est-ce qu'on peut quand même te représenter rapidement et dire qui tu es? Tu es archiviste.
J'étais.
Tu étais archiviste.
Oui, j'étais archiviste de métier. J'ai quitté mon emploi pour réaliser un tour du monde en 2019, qui m'a pris 15 mois. Voilà, et en revenant, après avoir immortalisé le périple dans un livre, eh bien, j'ai changé d'orientation professionnelle. Et désormais, je suis écrivain biographe.
Écrivain biographe. Tu avais été archiviste, historien et,
Ouais, j'ai commencé par des études d'histoire que j'ai complétées par un master en archivistique. Et désormais, c'est l'écriture de biographie qui m'intéresse. C'est d'accompagner des gens dans le voyage mémoriel pour qu'ils puissent transmettre leur histoire de famille, de vie, de leur entreprise, pourquoi pas, à leurs enfants et petits-enfants. Donc voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui.
Et grand baroudeur.
Oui, oui, grand, je sais pas, mais en tout cas, oui, j'aime bien prendre mon sac à dos, lever le pouce et découvrir, alors que ce soit la France, l'Europe ou le monde. Voilà, le monde, ça m'a bien occupé au cours des trois dernières années, et puis maintenant, ce sera plus l'Europe, je pense. Ouais.
Et effectivement, lever le pouce, ton mode de transport favori, c'est l'autostop.
Ouais.
Qu'est-ce qui te plaît là-dedans?
Ce qui me plaît, c'est les rencontres faciles, rencontrer des gens que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer d'une manière différente. Ce qui me plaît, c'est l'imprévu. C'est de travailler la patience aussi, de savoir quand on part, mais de ne pas savoir où je vais arriver le soir même et comment et par quel chemin. Mmh. Donc voilà, il y a vraiment un côté aventure qui me plaît beaucoup. Et puis, vraiment le fait de rencontrer des gens qui vont pouvoir faire une bonne action. Ouais. Aussi, ils n'avaient rien prévu aujourd'hui. Et puis là, sur le chemin du travail, eh bien, ils vont pouvoir faire une BA. Donc c'est un échange assez sympa. Et c'est vrai que de se retrouver dans la voiture d'un inconnu pour un temps limité, eh bien, ça permet des échanges souvent très profonds, très riches,
ouais,
qu'on n'aurait pas avec son collègue de travail qu'on fréquente pourtant tous les jours. On peut se permettre des discussions.
On ne le reverra pas. On le reverra certainement plus. Il y a peu de chances de recroiser quelqu'un qu'on a croisé au bout du monde. Donc on peut lui dire ce qu'on veut et il peut nous dire ce qu'il veut.
Exactement. Même si ça m'est déjà arrivé d'être pris en stop deux fois par la même personne.
Ouais.
À deux reprises d'ailleurs, une fois en Pologne il y a bien longtemps et une fois au cours du voyage autour du monde où j'ai été pris deux fois par le même couple à deux semaines d'intervalle et 1500 km de distance.
Donc, ah ouais.
Faut jamais dire jamais.
Ouais.
C'est possible aussi de... Et surtout aussi, si je pars souvent de Villefranche. Mmh. Donc voilà, il est possible de me voir régulièrement. D'ailleurs, cet après-midi, je descends à Lyon.
S'il y a des gens qui
font le voyage. Si quelqu'un, vers 15h, descend à Lyon, vous me verrez peut-être à l'entrée de l'autoroute.
Très bien. Quand tu parles d'autostop, tu dis rencontrer l'inconnu. Il y a beaucoup d'imprévus et c'est ça qui te plaît.
Ouais.
Moi qui suis quelqu'un de très routinier, c'est des mots qui parfois me font peur, inconnu et imprévu. Il n'y a pas un peu d'appréhension des fois aussi?
Si, il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais il faut réussir à transformer ça en quelque chose de positif et de se dire, voilà, ce qui va m'arriver, c'est quelque chose de chouette, je vais faire de belles rencontres et ça arrive la plupart du temps. Mais c'est sûr que c'est pas naturel en soi, je suis plutôt quelqu'un de réservé, voilà, c'est ma manière de sortir de ma zone de confort aussi,
ouais,
et de rendre peut-être la vie quotidienne un peu plus palpitante de temps en temps en levant le pouce. Donc ouais, c'est une manière de se donner un peu d'adrénaline, même si c'est pas non plus les montagnes russes, mais cet aspect inconnu est assez vibrant.
Ouais. L'année dernière, t'as fait un voyage en Pologne.
Ouais.
Justement, en levant le pouce également, c'était pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens qu'il y avait en Pologne.
Ouais.
L'idée a germé quand et comment ?
Comme beaucoup de monde, j'ai été très marqué par cette nouvelle invasion de l'Ukraine.
Ouais.
en février, le 24. Et ma première démarche, c'était de descendre en stop à Lyon et d'aller manifester Place Bellecour le 27. Et j'étais assez marqué parce qu'il y avait assez peu de monde, à mon sens. Et dans les semaines qui ont suivi, avec les premières images des bombardements, des civils touchés, de l'exode, je me suis demandé ce que je pouvais faire puisque la guerre frappait à nouveau aux portes de l'Europe. Alors je ne suis pas un grand humanitaire, je ne suis pas particulièrement investi dans les associations, mais je me suis demandé ce que je pouvais faire à titre individuel, de manière brève quand même, parce que en parallèle d'une vie professionnelle, il faut trouver le temps. Donc de manière très modeste, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire, et au bout de 4 semaines, je me suis dit, je vais lancer une collecte d'argent pour voyager léger. Il y a des gens qui ont rempli des voitures et qui sont partis. Moi, j'ai décidé de partir en stop, justement, et donc de voyager léger. Et donc, j'ai sollicité mon entourage proche. Je ne voulais pas d'argent d'inconnu. Donc, c'était vraiment une collecte dans mon réseau. Et en leur donnant deux semaines, trois semaines, et en leur disant, si vous me donnez de l'argent, moi, je prends plusieurs engagements. Le premier, c'est d'utiliser 100% de la somme, c'est-à-dire que le voyage est sur mes propres frais. L'idée, c'est de ne pas donner de l'argent sur place, mais d'acheter aux personnes rencontrées, aux réfugiés rencontrés, les éléments, la nourriture, les produits de première nécessité dont ils auraient besoin. De rendre compte, évidemment, de mes dépenses. Je me suis engagé aussi à être le plus varié possible, ne pas acheter que des médicaments ou que de l'alimentaire, d'être varié, et aussi de varier l'aide sur tout le territoire polonais. C'était assez ambitieux, mais sachant que je me déplaçais en autostop d'ouest en est, je me suis dit que je pouvais aider tant à l'est qu'à l'ouest, tout en ayant à l'esprit l'idée qu'il y aurait vraisemblablement le plus de besoins près de la frontière ukrainienne.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà comment je me suis organisé. Et puis, j'ai fixé une date de départ, le 29 avril. J'étais en Alsace à ce moment-là, donc c'était plus proche que la Calade.
Ouais.
Et j'ai levé le pouce à la sortie de ma ville et
c'est parti.
Voilà.
C'est une somme de plus de 1700 euros qui a été réunie.
Oui, c'est ça, 1780 euros.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Je t'avoue que j'avais aucune idée de ce que j'allais recevoir. Je m'attendais à rien, j'avais pas fixé de limite, mais je craignais d'avoir trop peu pour y aller.
Pour que ça ait du sens.
Voilà, c'est ça, et je craignais d'en avoir trop de crainte de ne pas l'utiliser convenablement sur place et de revenir avec la moitié, par exemple.
Ouais.
Et je m'étais fixé à peu près 2 semaines sur place pour pouvoir faire bon usage de cet argent au gré de mes rencontres. Et finalement, 1780 euros, pour moi, c'était... Enfin, voilà, j'ai réussi en tout cas à utiliser toute la somme, donc je suis assez heureux d'avoir tout utilisé comme prévu.
En Pologne, c'est un pays où il y avait la guerre dans le pays voisin.
Oui.
Il y avait des millions de réfugiés qui arrivaient depuis au moins un mois en Pologne. C'était quoi le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'ambiance, mais je ne sais pas si c'est adapté. Est-ce que ça se ressentait juste en faisant du stop ou
Oui et non. Enfin, oui déjà parce que au gré des rencontres, j'ai quand même fait 50 trajets en Pologne, donc j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai pu prendre le pouls de ce qui se passait. Et effectivement, tous les témoignages qui m'ont été faits en voiture quand les gens apprenaient la raison de mon voyage, eh bien c'était j'en croise tous les jours dans ma rue, on entend de plus en plus parler ukrainien en ville. Donc c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a décidé. D'ailleurs, je reviens sur la question précédente. Au moment où je pars, il y a 2 500 000 réfugiés ukrainiens en Pologne au bout d'un mois, à une époque où en France on était peut-être à 20 000 dans un pays beaucoup plus important et plus riche. Donc je me suis dit c'est surtout là-bas qu'il faut aller aider. Mais l'ambiance était celle d'une ambiance solidaire. Il faut savoir que les Polonais ont une histoire commune avec l'Ukraine. Ce sont des pays slaves avec une frontière importante commune, et donc avec également une diaspora qui était importante avant-guerre et même avant l'invasion de la Crimée. Donc il y avait déjà, je crois, 600 000 Ukrainiens qui habitaient. Donc, assez naturellement, il y a beaucoup de réfugiés qui se sont installés chez des proches qui étaient déjà en Pologne. Mais l'ambiance générale, c'était celle de « il faut qu'on se serre les coudes, peut-être qu'on sera les prochains sur la liste ». Il y a cette crainte aussi, il y a cette peur des Russes. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider nos voisins et amis ukrainiens?
Ouais, donc pas mal de solidarité.
Et c'est ce qui m'a un peu marqué au début, puisque les premiers réfugiés que j'ai pu rencontrer plutôt à l'ouest, c'est une région où j'ai habité par le passé rapidement, donc j'ai commencé à un endroit que je connaissais bien. Eh bien, les réfugiés que j'ai vus étaient logés, nourris. Les habitants leur avaient collecté des habits. Ils avaient même de l'argent de poche. Donc, en gros, les premiers réfugiés, mais c'était une très très belle rencontre, m'ont dit bah, nous, merci pour la démarche, merci pour le projet, mais nous, ici, on a besoin de rien.
Ouais.
Au contraire, ils en font trop. On essaye de travailler, de gagner notre vie. Ils ne viennent pas pour se tourner les pouces. Ouais. Ils viennent pour vivre, survivre. Et voilà, ça m'a confirmé dans l'idée que les Ukrainiens étaient très bien accueillis en Pologne. Après, j'ai continué mon périple et j'ai réussi à rencontrer des gens qui avaient des besoins très spécifiques.
Ouais.
Mais globalement, au moment où je viens, en tout cas, début mai, fin avril, début mai 2022, la Pologne a tenu le coup. Et que ce soit par le biais de l'Église, les associations, l'État un peu moins, mais a quand même mis des choses en place, notamment des transports gratuits pour aller d'une ville à l'autre et éparpiller un petit peu les réfugiés. Globalement, ils étaient bien accueillis.
Ouais. Et alors, comment est-ce que tu as utilisé les dons que tu as récupérés? Comment est-ce que tu as choisi « là, je vais intervenir, je vais faire quelque chose, je vais essayer d'aider »
Alors, la première fois où j'ai vraiment participé, ça a été à la frontière, à Korchowa. C'est vraiment un des gros points d'entrée des Ukrainiens en Pologne. Je me suis rendu compte que à ce moment-là, j'avais une opportunité qui n'était pas prévue dans mon projet initial. Je voulais vraiment donner à des gens que je rencontrais. Mm. Mais là, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Français, Claude et Antoine, qui organise des périples depuis la France jusqu'en Ukraine, jusqu'à des zones très proches du front à ce moment-là. Et je leur ai fait confiance. Et au moment où je les rencontre, ils partent pour l'Ukraine et ils vont faire des courses. Et donc, ma première participation, ça a été de remplir 2-3 caddies pour remplir leur camionnette pour qu'ils puissent l'acheminer en Ukraine. Donc là aussi, c'est une fierté parce que ce n'était pas prévu au départ. Je pensais vraiment aider sur place en Pologne. Mais 70% des dons ont été utilisés pour acheter de la nourriture qui a pu être acheminée au plus près du front à des endroits où on n'avait pas forcément d'électricité, pas forcément d'eau potable. Et donc, grâce à eux, et je les remercie, Claude et Antoine ont vraiment pu m'aider à utiliser une partie de cette somme. Donc, une grande partie, ça a été de cette manière-là. Ensuite, je suis remonté vers Varsovie. Et à Varsovie, j'ai pu aider, alors là, localement, je suis entré dans une tente d'aide aux réfugiés à la gare de Varsovie et j'ai demandé, moi je suis en transit, de quoi avez-vous besoin? Et ils m'ont dit, effectivement, il y a beaucoup de réfugiés qui passent par Varsovie, qui après repartent dans d'autres villes. On a besoin, là très ponctuellement aujourd'hui, on a besoin de dentifrices, des petits, pour voyageurs, et de serviettes hygiéniques. Donc je suis allé à la première pharmacie du coin, j'ai rempli 2 sacs de ces produits-là et je les ai donnés sur place. Donc ça a été le deuxième temps de l'aide, donc à Varsovie. Et enfin, en revenant vers Poznan, là, j'ai rencontré une famille. J'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui m'a mis en lien avec Ivanka, qui avait des enfants en bas âge, 4 ans, qui a dû laisser sa ville, son mari et son fils aîné sous les bombes et qui est parti en Pologne. Et elle avait une problématique très particulière et il me restait encore un peu d'argent, donc c'était idéal pour moi de rencontrer quelqu'un comme ça. Elle a un fils, Arthur, qui est diabétique et qui était dans l'attente d'une pompe à insuline. Mmh. Alors, j'avais plus assez de moyens pour acheter une pompe à insuline, mais j'ai pu lui acheter des aiguilles pour stylo à insuline. J'ai pu lui acheter des capteurs de glucose, des produits comme ça dont il avait besoin, de la vitamine
très
D, très spécifique, et donc qui ont pu aider ce jeune garçon à avoir des soins sur les 3, 4, 5 mois à venir. Quoi.
Ouais. Donc il y a vraiment eu des actions générales, je dirais collectives, et puis des choses très, très précises pour un enfant qui avait quelque chose. La distribution était assez diverse.
Exactement, et c'était vraiment ça, c'était l'objectif. Je ne pensais pas pouvoir atteindre l'Ukraine, mais je voulais vraiment quelque chose de varié en termes de produits apportés. Et en termes de lieux, et voilà, entre la frontière, l'Ukraine, Varsovie et Poznan, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de ce point de vue-là, j'ai répondu aux objectifs que je m'étais fixé. Ouais.
On n'a pas beaucoup de temps, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Ce qu'on peut dire, c'est que si des auditeurs sont curieux d'en savoir plus sur cette histoire, il y a un livre qui retrace ce voyage.
Effectivement, j'en ai fait un livre témoignage qui s'appelle « La Pologne en stop, à la rencontre des réfugiés ukrainiens ». Et vous pourrez le retrouver chez notre ami Bertrand à la librairie des Marais, donc n'hésitez pas. C'est un livre qui est illustré, donc il y a 160 photos. Vous pouvez voir tous les portraits des gens qui m'ont pris en stop, et puis les réfugiés que j'ai pu rencontrer, les autres personnes de l'associatif qui ont pu aider au cours de ce voyage. Donc vraiment, il y a un livre témoignage que j'ai offert d'ailleurs à tous les donateurs, et qui permet de se souvenir qu'il faut continuer à aider.
Ça fait un an que tu es rentré. Alors, question à deux balles, si le voyage était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Est-ce que, avec du recul, tu te dis j'aurais bien aimé essayer de faire plus comme ça, ou
C'était vraiment un voyage très très spontané. Je pense que je referais les choses de la même manière.
Ouais.
Qu'est-ce que je ferais différemment? Peut-être que j'irais sur place. Là, ouais. Je m'étais interdit à aller en
Ukraine. Parce qu'il y avait une prise de risque, on n'en a pas parlé, mais oui. C'était évident.
Moi, j'avais pas particulièrement cette crainte, pas que je sois particulièrement courageux, mais c'était vis-à-vis de mes donateurs. Je voulais pas qu'il m'arrive quelque chose et qu'ils se sentent responsables, le cas échéant. Mais c'est vrai que j'ai eu la tentation à un moment donné avec Antoine et Claude qui m'ont proposé, tiens, tu nous as donné des... Viens avec nous pour voir où ça va.
Ouais.
Même si je leur faisais confiance, et ils m'ont dit, dans 24 heures, on est de retour. Et puis, j'ai préféré refuser vis-à-vis de mon engagement. Mais voilà, peut-être que c'est quelque chose sur laquelle je pourrais transiger, je ne sais pas.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est une belle action que tu as fait. Donc, effectivement, il y a ce livre, La Pologne en stop, à la rencontre des réfugiés ukrainiens. Et puis, on peut te retrouver, il y a un site internet, Des Racines à la Page.
C'est ça, vous pouvez me retrouver sur www.desracinesalapage.fr. Vous retrouverez mes livres, également mes conférences.
Ouais, et justement, il y a une conférence le 9 juin à Glézé, à la médiathèque.
C'est ça, vous pourrez me retrouver le 9 juin à Glézé à 19h30 sur inscription pour une conférence qui parlera de mon tour du monde. Donc ce ne sera pas le voyage en Pologne, mais ce sera mon tour du monde des sites historiques. Donc on pourra faire plusieurs étapes dans différents pays à travers des sites historiques, que ce soit de l'histoire géopolitique, civilisationnelle ou bien culturelle des pays traversés. Donc venez nombreux, ce sera vraiment très chouette.
Parfait. Merci beaucoup, Jérémy.
Avec plaisir, merci.
À très bientôt. On reste dans la musique ukrainienne. On écoute un morceau qui s'appelle Kupala et qui est chanté par un trio, Aliona Aliona, Jerry Hale et Ella.
Нащо ти шукаєш в думках хащу? Її зерна, наче спадщину, посадив у серці пращу. Прийде звір, відкриє пащу, квітку не давай ні за що. Бережи її, знай, що зів'яне в руках пропащу.
Будь воно по воді, дуй, щоби потребі, дуй.
Kupala, ça s'appelait le morceau qu'on vient d'entendre de Aliona, Aliona et Jerry Hale, et il y a une certaine Ella qui est pas loin non plus. Ensemble sur Calade.
Mots croisés.
Allez, on retrouve tout de suite notre conseillère conjugale et familiale, Céline Benck. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, on parle des langages de l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que ces langages de l'amour ?
Alors, les langages de l'amour, c'est une expression qui a été établie par Gary Chapman, qui était conseiller conjugal, ou qui est conseiller conjugal américain.
Ouais.
Et en fait, il s'est aperçu que les personnes avaient chacune un langage d'amour. C'est-à-dire qu'on va souvent, par exemple, offrir ou dire à l'autre des choses qui nous correspondent à nous, mais qui ne correspondent pas forcément au conjoint.
D'accord.
Par exemple, si je sais pas moi, si j'adore les petits mots doux et que je passe mon temps à dire des petits mots doux à mon conjoint et qu'en fait lui, il est touché par des gestes d'affection, les mots doux, ça va pas trop lui parler quoi. Ça va pas être son langage d'amour maternel en fait.
C'est okay.
Un petit peu comme si on avait une langue et que moi je parlais chinois et que mon conjoint me parlait allemand quoi. Donc c'est difficile de se rejoindre.
D'accord.
Et en fait, il a symbolisé ça par des réservoirs, comme si on avait chacun un réservoir affectif qui serait rempli si on se sent aimé et qui serait à sec si on manque de marque d'attention ou de marque d'affection. Et du coup, de parler le langage de l'autre, ça permet de remplir le réservoir affectif du conjoint ou de nos enfants. Hein, ça marche très bien aussi avec les enfants. Et du coup, la personne se sent beaucoup plus sereine, beaucoup plus en sécurité, parce qu'elle se sent aimée.
D'accord, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver comment la personne est la plus réceptive aux marques d'amour, c'est ça ?
C'est ça, ou qu'est-ce qui va la toucher le plus ?
Ok.
Et nous aussi, on a aussi à faire ce travail pour pouvoir aussi expliquer à nos enfants, à notre conjoint, qu'est-ce qui nous touche le plus, est le plus sensible en fait.
D'accord. Et alors, c'est apprendre des nouvelles langues, grosso modo.
Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est savoir quel est son mode d'emploi et l'expliquer à l'autre.
Très bien.
Donc, en fait, il y a cinq langages.
Ok. Et on commence par lequel alors.
Les paroles valorisantes, par exemple.
Allons-y. Ça veut dire quoi?
Alors, c'est plusieurs choses. Ça peut être des compliments. Tu es belle, merci pour le repas que tu as préparé, je suis reconnaissant quand tu fais ceci, cela. C'est vraiment des moments où on va dire merci de façon très sincère à l'autre. Ça peut être des paroles d'encouragement. Si tu décides de faire ça, je suis sûre que tu vas y arriver. Quand tu fais quelque chose, tu arrives jusqu'au bout. Je vais t'aider si tu fais ça. Voilà, on est vraiment présent auprès de l'autre.
Ok.
Ça peut être juste des paroles aimables sur un ton chaleureux, dans un langage positif. Ça peut être aussi des excuses ou un pardon qui est demandé ou accordé par rapport à quelque chose qui a pu se passer.
D'accord.
Donc c'est tout ce qui passe par le langage. Et là, c'est intéressant aussi si on aime bien des petits mots doux, par exemple, ma chérie, un petit surnom, un petit mot mignon. Enfin, des choses qu'on aime bien entendre. Il y a des personnes qui sont très très sensibles à ça. Entendre, je suis fière de toi, je t'aime tel que t'es, je suis bien avec toi. C'est des choses qui peuvent toucher très fort une personne et c'est important de le savoir.
Donc c'est vraiment dans le verbal que dire les choses. Très bien. Quel autre langage existe-t-il ?
Alors, il y a ce qu'on appelle les moments de qualité. D'accord. Alors, les moments de qualité, c'est accorder notre attention complète, totale, à quelqu'un d'autre. Alors ça, les enfants, ils sont très friands de ça. C'est-à-dire que les enfants, ils aiment bien avoir un de leurs parents pour eux, surtout s'il y a d'autres frères et sœurs, et sans distraction. C'est-à-dire que c'est vrai que si on parle à notre enfant ou si on l'écoute avec notre téléphone dans les mains, on ne sera pas aussi disponible que si on n'a rien du tout entre les mains. Donc c'est vraiment être là complètement pour l'autre. être juste là ensemble, tout simplement, sans chercher d'autres distractions. Et du coup, ça permet d'écouter l'autre, de pouvoir aussi lui parler. Et ça peut être aussi faire une activité à deux. Donc, ça peut être, faire un gâteau ensemble, ça peut être faire une balade, prendre un apéro, même regarder un film ensemble. Mmh. On est vraiment présents l'un pour l'autre. Donc ça, c'est des choses qui généralement touchent bien les personnes et notamment les enfants.
D'accord. Donc simplement passer du temps ensemble et puis se sentir, sentir que l'autre est 100% avec nous, quoi.
C'est ça. Du coup, ça nous donne de l'importance. On dit, si tu acceptes de lâcher ton téléphone pour moi, ça veut dire que je compte pour toi. Donc ça, c'est une belle preuve d'affection.
Très bien. Alors, quoi d'autre comme langage? Là, on en a vu deux, il y en a cinq, il en reste trois.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a les cadeaux. Donc ça, c'est assez bateau quand même, mais ça peut être un petit cadeau fabriqué, un petit cadeau acheté. Mm. Ça peut être des toutes petites choses. Comme un cadeau plus important, mais c'est aussi choisir quelque chose qui correspond à la personne. Et forcément, quand on reçoit un cadeau qui nous correspond, c'est comme si on savait que la personne avait choisi en pensant à nous. Donc, c'est important de. Voilà, les cadeaux, c'est pas toujours. Bien adapté. Hein. Des fois, on reçoit des cadeaux qu'on n'a pas forcément, qu'on n'aurait pas forcément choisi.
Ouais. qui nous laisse un peu pantois parfois. Mais un cadeau bien trouvé qui vient nous toucher, ça marche toujours effectivement. Et pas forcément quelque chose de cher. C'est juste avoir une attention, lui offrir quelque chose. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose de très très cher pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime.
Tout à fait. Oui, heureusement d'ailleurs.
Y a quoi d'autre alors comme langage de l'amour?
Alors, il y a les services que l'on va rendre, c'est-à-dire tout le soutien, l'aide qu'on peut porter à quelqu'un. Imaginez, quelqu'un est malade et vous allez prendre de ses nouvelles ou vous allez lui rendre visite. C'est des choses aussi où on donne de notre temps pour l'autre. Mmh. Et ça, c'est des choses qui montrent à l'autre qu'on on est là pour lui. Ça peut être rendre service. Un enfant qui va vider de la vaisselle ou qui va ranger spontanément, ou même si on lui demande qu'il le fait avec bonne volonté, c'est des choses qui font plaisir. On se sent souvent soutenu, aidé quand ça arrive. Ou bien, je suis allée chercher la voiture chez le garagiste, ça t'évite d'y aller, ou je t'ai rempli j'ai fait le plein d'essence pour que ta voiture demain soit prête. C'est des petits gestes qui montrent qu'on est attentif à l'autre. Et il y a des personnes qui sont très sensibles à ça.
Ouais.
Voilà, donc c'est les services que l'on rend.
Très bien. Et alors, le dernier, qu'est-ce que c'est?
Alors, le dernier, c'est tout ce qui concerne le contact physique, le toucher. Donc là, il y a aussi des personnes qui sont très tactiles et c'est souvent relié à comment on a été aussi aimé quand on était petit. Il y a des familles où on se fait des câlins, on s'embrasse, le toucher est bien présent. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Mais c'est un langage qu'on peut apprendre au fil du temps. Donc ça va être tenir la main, s'embrasser, faire une petite caresse, et ça va jusqu'à la relation sexuelle pour les couples. Donc c'est un langage qui peut être très fort pour quelqu'un qui est sensible. Donc c'est aussi tout simple, faut avoir ça en tête pour un peu développer son intelligence, émotionnelle et affective, pour utiliser toute cette palette de langage pour pas non plus parler qu'un seul langage à notre conjoint ou à nos enfants.
Ouais. Et puis montrer aux gens qu'on aime, qu'on les aime.
On leur dit et on leur montre jamais assez, je crois.
Ouais. On a appris plein de façons de le faire, toutes simples, évidentes, mais il y a des fois on oublie qu'un petit mot ou une petite attention, un service, ça suffit à montrer aux gens qu'on tient à eux. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'était les conseils de notre conseillère conjugale et familiale Céline Benck que vous pouvez retrouver à Villefranche. On parle d'amour sur Calade et ça fait du bien de temps en temps de parler d'amour.
Mon père et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du coup tout excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Oh amour, mon père et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier. Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et amour, mon amulette du coup tout excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier. Oh amour, la première fois me ressent plus jeune à c'est l'amour. Première fois vue pour la dernière fois. Oh l'amour de ce doux c'est pas si glisse pas les parfois. Et amour reste un jeu d'enfant à crier. Oh amour mon père et je ne sais pas comment. Oh amour ma mère et tous ses sentiments. Oh amour mon frère et ma sœur évidemment. Oh amour reste un jeu d'enfant à crier tout le temps.
C'est Louise Attaque sur Calade avec Amour, extrait d'un album sorti en 1997. Ça a 26 ans qu'on écoute du Louise Attaque. Voilà, je me suis pris un petit coup de vieux, je voulais pas vivre ça tout seul.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Allez, on parle littérature tout de suite et pour cela on retrouve Marie. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour tout le monde.
De quoi est-ce qu'on va parler plus précisément aujourd'hui que juste de littérature?
Aujourd'hui, on se fait une petite émission BD avec une sélection des dernières pépites qui sont parues en librairie et de mes derniers petits coups de cœur.
Ok, ça part en bande dessinée, allons-y.
Exactement, on aime bien de temps en temps comme ça, chronique BD. Donc le premier album dont je voudrais vous parler, c'est La Petite Lumière de Grégory Panation, qui est une adaptation d'un roman publié chez Delcourt. Donc c'est l'adaptation du roman de Antonio Moresco qui était paru en 2013, que à l'époque on avait déjà adoré à la librairie. Et là c'est une adaptation qui est extrêmement réussie. Pour la petite histoire, Grégory Panation, c'est celui qui a adapté Cabo Caboche de Daniel Pennac il y a quelques années. Et en fait, quand il a adapté ce récit de Daniel Pennac, Pennac lui a dit « Oh, mais attends, j'ai lu un livre extraordinaire, il faut que tu l'adaptes, il n'y a que toi qui peux l'adapter. » Et donc, il lui a proposé le projet de La Petite Lumière avec Antonio Moresco. Et il l'a bien fait. Merci, Daniel Pennac.
Très bien.
Donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui emménage dans une maison, suite à une grande tempête, il emménage dans une petite cabane dans les bois. Et tous les soirs, quand la nuit tombe, il voit en face de chez lui une petite lumière. Et il se demande ce que c'est que cette petite lumière. Il demande au village, personne ne sait, mais il n'y a personne qui habite là-bas. Et il va décider d'aller voir. Et évidemment, je ne vous dirai pas ce qui se trouve dans cette petite cabane, sinon le suspense est gâché, mais c'est un récit qui est d'une poésie absolue. C'est vraiment une parenthèse hors du temps. On est complètement hors du temps, il n'y a pas d'autre terme. Et on est sur le fil comme ça, des équilibristes sur le fil entre la réalité et l'imaginaire, presque le rêver, quoi. C'est sublime. C'est magnifique.
La petite lumière, donc, de Grégory...
Panaccione. Je prononce très très mal l'italien, mais...
C'est pas grave.
Mais voilà, donc, adaptation d'un très beau roman, et c'est une adaptation réussie.
C'est pas voilà. tout le temps le cas.
Et ben non, et là, Bertrand avait adoré le roman, donc il avait un peu peur de se lancer, ouais. Et vraiment, c'est un coup de cœur de la librairie, quoi. C'est très très belle BD.
Super.
Ensuite, on est dans un tout autre registre. Je voudrais vous parler de L'année fantôme de Didier Tronchet, qui est paru chez Air Libre, donc qui est une collection de Dupuis. Didier Tronchet, ça fait des années qu'il fait ses armes dans la BD. À l'époque, il a beaucoup travaillé pour Fluide Glacial.
Ah oui.
Voilà, c'est un humoriste un peu cinglant, avec des personnages que les fans de Fluide Glacial connaissent un peu, puisque Raymond Calbut, Jean-Claude Tergal, voilà, c'est ces personnages-là qui sont des
bonnes caricatures.
Voilà, c'est ça, des grosses caricatures et qui servent un humour bien cinglant, quoi. Ouais. Et donc Tronchet, qui avait été récompensé d'ailleurs à Angoulême en 98, moi j'ai découvert ça, je savais pas ça, pour une de ses BD comme ça, humoristiques. Mmh. Et il revient avec L'année fantôme avec quelque chose de très différent, puisqu'en fait il va nous raconter l'histoire d'un... Il y a un côté très autobiographique, puisque c'est l'histoire d'un humoriste qui a un humour qui fracasse un peu tout le monde. Mais un jour, sur un plateau télé, il va faire la blague de trop. Ah. Et voilà. Et là, il est mis au banc de la société et il va plus lui rester qu'à retourner dans sa petite vie de famille, sa petite vie de campagne. Et il va retourner à l'origine de son travail d'humoriste. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire de l'humour? Et il va se rendre compte que dans son enfance et dans l'histoire de sa famille, il y a un trou d'un an. Il y a un an où il n'y a pas d'archives dans sa famille, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on va mener enquête.
D'accord.
En fait, ce personnage au début, là, c'est un peu comme Didier Tronchet. Ce personnage, au début, on le déteste parce que vraiment, il vanne tout le monde. Il est presque méchant, quoi. Et en fait, c'est très tendre. Il y a un moment où on bascule et on se prend d'attachement pour cet humoriste complètement raté. Et voilà, c'est vraiment très, très tendre.
Très bien. L'année fantôme de Didier Tronchet.
Tout à fait.
Et drôle ou...
Ouais, très drôle. Très drôle, mais voilà, cet humour un peu grinçant quand même, quoi. Ouais. Mais ça reste quand même très drôle, quoi, comme il sait le faire.
Et joli, je vais chercher la photo de la couverture, ça a l'air.
Alors, joli. En plus, il a un dessin très caractéristique, quoi. Ouais. Et j'écoutais une interview de lui l'autre jour pour la petite anecdote, c'est rigolo parce qu'il dessine ses personnages avec des jambes et des pieds très très fins. Et en l'occurrence, son personnage-là s'appelle Gilles Colosse aux pieds d'argile. Donc, il disait dans son interview qu'il n'a pas pu, il ne pouvait pas dessiner des grandes jambes et des grands pieds à quelqu'un qui a un nom pareil. Donc, voilà, c'est assez rigolo. À chaque fois, on a ce second degré jusqu'au nom des personnages. Ouais. Quoi. C'est voilà, donc très très chouette et une très belle BD qui nous livre à nouveau, quoi.
Parfait. Est-ce qu'on a d'autres idées de BD?
Ouais, et en plus, c'est un BDiste qu'on adore, nous, à la librairie, c'est Mathieu Bertrand. C'est un homme qui vient de Bourgogne et qui est toujours dans le coin. Donc, voilà, c'est quelqu'un qu'on adore suivre et qu'on aura l'honneur de recevoir à la librairie le 17 juin.
Ok.
Donc, pour la parution de son dernier album, entre autres, puisque on suit son travail depuis très longtemps. On l'avait reçu à la librairie pour le précédent qui s'appelait Pierrot aux poches crevées. Et là, aujourd'hui, on le retrouve avec le très bel album La Sève de nos vies, qui est publié dans la maison d'édition Rue de l'Échiquier. Et donc, dans cet album-là, on retrouve l'histoire de Sandra, qui est une nana qui vit dans une grande ville, qui travaille pour la mairie d'une grande ville. Et un jour, la mairie va monter un projet qui va complètement à l'encontre de ses convictions. Donc elle quitte la ville, elle quitte son mec et elle retourne à la campagne, dans sa campagne natale. Et elle se reconnecte à ses racines familiales et à la nature. Et c'est magnifique. C'est hyper touchant. Et à la fois, il y a quand même toute une intrigue familiale parce que quand elle arrive, elle donne son nom de famille au marché et on lui dit qu'on veut pas d'elle dans le village. Enfin voilà, on comprend que sa famille est vraiment complètement écartée de la vie du village et on ne sait pas pourquoi. Et on va le découvrir.
Très bien, La Sève de nos vies de Mathieu Bertrand.
C'est ça. Et pour info, Mathieu Bertrand, c'est un auteur BD, donc qui est toujours dans la région et qui fait beaucoup, qui anime beaucoup d'ateliers, qui est beaucoup en festival parce qu'il aime beaucoup transmettre ce goût de la BD, ce goût du dessin. Et il fait partie d'un collectif notamment qui s'appelle Battle BD, qui monte des spectacles qui lient le dessin, la musique et le théâtre. Donc je vous invite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est hyper sympa. Ils se déplacent quand même pas mal dans la région notamment. Et vraiment, c'est des spectacles qui sont super chouettes, quoi.
Ok, et on peut rappeler qu'il passe donc le 17 juin, c'est ça, à la librairie ?
Tout à fait, à la librairie pour griffer nos petites BD de son dessin qu'on adore parce que c'est très doux, avec un dessin un peu aquarellé comme ça, magnifique. Donc venez voir ce qu'il fait parce que c'est très chouette.
Parfait. Et alors on a peut-être le temps pour une dernière bande dessinée.
Allez, une petite dernière, ça c'est mon goût du western qui revient au galop. C'est La femme à l'étoile de Anthony Pastor, publié chez Casterman. Et j'avais un peu bassiné tout le monde avec OK en fin d'année en tant que western, mais là on est dans un registre très différent. Voilà, j'ai un petit crush là-dessus. On est dans un registre très différent puisque c'est du western, mais un huis clos très noir.
Ah ouais.
On est à la fin du 19e, dans le nord-ouest des États-Unis. Et on est avec un hors-la-loi qui arrive dans un village complètement désertique. Et il se dit, je fuis mes créanciers, donc je vais m'installer ici. Et en fait, il se rend compte qu'il y a une femme qui vit là, qui prétend être le shérif d'un village du coup désaffecté. Mmh. Et tous les deux, ils vont fuir le shérif et tous les gens qui en ont après eux. C'est une très belle histoire. J'ai presque envie de dire d'amour, mais... Et en même temps, les paysages du nord-ouest des États-Unis, le froid comme ça, l'ambiance hyper glaciale, western polar, c'est à tomber par terre.
Un western en huis clos où il fait froid, moi ça me fait penser aux 8 salopards de
Tarantino. Eh bien, on est un peu dans cet esprit-là, exactement. Ouais.
Et ça doit être pas mal alors.
C'est très très chouette.
Très bien. Anthony Pastor, La femme à l'étoile.
Voilà.
Parfait, c'est une belle sélection, merci beaucoup.
Merci à toi, écoute.
Et on peut venir lire ça à la librairie des Marais, pardon.
Voilà, tout à fait. Merci. Vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À bientôt, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, il me reste juste le temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis pourquoi pas de vous donner rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. D'ici là, vous retrouverez cette émission en réécoute sur radio-calade.fr, rediffusion, demain matin à 10h. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce qui vous attend là dans les minutes à venir, vos pages d'information quotidiennes, le journal de RFI à 13h pile poil, à 13h10, le journal local de Sylvie Rosier, et puis juste après, à 14h, vous passez un moment en compagnie de Georges Botton pour son émission de jazz traditionnel, la 101e. Prenez bien soin de vous, à tout bientôt à l'écoute de Calade. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.